Petit préambule pour l'épisode 93, qui est la suite de l'épisode 91, dans lequel nous abordons une masse de sujets qui est finalement débordé sur deux épisodes. Donc, dans cet épisode-ci, nous abordons la deuxième moitié de choses. C'est un peu plus long que le premier. Nous allons essayer juste faire deux ou pas trois épisodes pour ça. Puis j'en profite pour faire un petit rappel que l'épisode 91 est déjà disponible. Fait que si vous voulez l'écouter, il est déjà pour vos oreilles. Sinon, pour les codes rabais du Sécur, les ceux qui ont été dissimulés dans l'épisode 75, un seul des deux a été trouvé. Et on continue à diffuser d'autres codes dans les différentes plateformes. Et il y aura dans un avenir rapproché d'autres codes cachés dans les différents épisodes du podcast. Bonne écoute. Effectivement. On va glisser à la prochaine nouvelle qui est au niveau des médias sociaux va générer 3,25 milliards de dollars. J'allais dire billions parce que c'est en anglais. Milliards de dollars pour chaque année.
Encore une fois, c'est une autre nouvelle qui vient capter l'imaginaire parce que comment ça se fait qu'il y a encore des bandits qui font beaucoup d'argent là-dessus? Puis on dit toujours que les services policiers sont toujours là pour nous aider, ils vont être capables de les prendre, les bandits. C'est vrai, le service policier, ils en font du travail, du bon travail, et il ne faut pas arrêter de les appuyer, et surtout de donner des ressources financières, mais surtout des ressources humaines, parce que je t'apprenais récemment qu'il y a des services policiers dans le pays, au Canada, qui se font vider les compétences pour être capables de continuer à faire le travail d'enquête, parce que l'entreprise privée est beaucoup plus lucrative aux yeux des policiers qui ont travaillé depuis un certain temps aller se parfaire leurs connaissances. Et ce qui fait en sorte que les services sont dénudés d'expertise. Donc, c'est de comprendre aussi comment est-ce que la technologie, dans ce cas-ci, aide à propulser le crime, ou ce que les statistiques continuent d'augmenter dans le mauvais sens. Autrement dit, juste des exemples comme ça, je veux dire, la rapidité par laquelle les infections vont avoir. Une entreprise sur cinq risque d'avoir une infection par les médias sociaux. Des données, depuis 2013, il y a 1,3 milliard de comptes des médias sociaux qui ont été, où ce que l'information a été subtilisée. Encore une fois, c'est une question de mot de passe rendu là. On l'a vu où ce que le Cyber Command américain s'est fait avoir son compte une usurpation d'identité, le mot de passe qui a été capté, toutes sortes d'affaires comme ça. Donc, tout le monde est éligible à se faire voler son information, c'est ça mon point. Et après coup, on voit aussi la tendance qui s'en va vers les crypto-miners qui vont venir prendre la place de plus en plus sur le marché au lieu que ce soit le ransomware. Donc, c'est une nouvelle que j'ai prise cette semaine et le ransomware commence à se faire un peu fatigué de ses activités, mais surtout de son concept d'opération. Et donc, on va laisser place aux crypto-miners qui, eux, s'infiltrent de façon sournoise sur les différents sites web. Et comme certains utilisent parfois encore même Internet Explorer, pour ne pas dire trop fort, faire en sorte qu'ils s'exposent eux-mêmes à des vulnérabilités quand même assez importantes. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Il faut garder une bonne cyberhygiène afin de protéger son environnement de travail et de garder souris, n'est-ce pas?
Absolument. Et tant qu'à parler des médias sociaux, au Québec, on a eu, et au Canada, on a eu deux nouvelles très importantes à ce sujet-là. La première étant au niveau des dossiers des migrations qui créent quelques mouvements sociaux ici. Et on a appris cette semaine qu'il y avait peut-être un peu de manipulation sur les médias sociaux à ce sujet-là.
Oui, exact. Puis ça a créé un grand, gros, très grand émoi au niveau des médias. On a sorti un article, en fait, que j'ai participé pour la recherche sur le projet de la loi 9, qui est l'immigration là, des dossiers, de 18 000 dossiers et plus qui ont été comme abandonnés ou mis sur la selle. Et il y a un réseau en Iran de plusieurs milliers de personnes qui ont décidé de commencer à utiliser Twitter pour faire bouger les choses sur le gouvernement du Québec, donc qui vont taguer là, tous les ministres et les personnes de réseau, etc. Et en même temps, à partir de là, ce qui s'est produit, c'est qu'à la sortie du de l'article, le lendemain ou quelques heures après, qui ont décidé de créer un hashtag « Je suis un humain, pas un robot » ou quelque chose comme ça. Et là, c'est la folie qui est partie. Un autre média a décidé d'embarquer dans ça et a dit qu'il n'y a aucune manipulation. C'est vraiment plein de personnes qui se regroupent ensemble et qui réagissent effectivement très vite, sont capables, eux, de taguer une centaine de likes et de retweets en moins de 20 secondes via un télégramme à 2 heures du matin. Essayez de me faire accroire ça, il faut être un peu naïf, c'est un peu bidon. C'est la problématique là-dedans, c'est que c'est vrai qu'il y a des vraies personnes en arrière. Puis là, leur hashtag de « je suis pas un robot » sont comme fâchés qu'on ait sorti cet article-là. Mais le point n'est pas qu'il n'y a pas d'enjeu d'immigration. Le point est qu'il y a quelqu'un en arrière qui mousse les réseaux sociaux pour que l'ampleur soit plus grande. C'est pas que le cas est pas bien, il n'y a pas une affaire de raciste, il n'y a rien de spécial dans l'histoire. C'est que le Twitter est utilisé pour mousser le tout. Puis, comme la prochaine nouvelle que Steve va nous parler, ben l'impact... Non, Steve ne parlera pas, OK. Que l'impact peut être très grand sur des causes plus sensibles. Là, c'est un moussage des réseaux sociaux sur une cause pour aider des immigrants à partir d'un pays qui est plus ou moins super. Imaginez si le même concept était appliqué à des trucs pour manipuler l'opinion publique sur des éléments sensibles sur le pays, la défense, etc., sur les élections et plus encore. C'est un peu ça le point. Mais là, c'est ça, là, il y a comme une guerre sur Twitter et certains journalistes qui se pensent meilleurs que d'autres et c'est super drôle.
Ouais, ben c'est, tout ça, pour moi, c'est troublant. Pas autant, comme tu le disais justement, que le fait dangereux, c'est la manipulation de l'opinion publique. L'opinion, et en ce sens-là, dans ce cas-ci, la cause est louable, effectivement.
Oui, c'est
personne.
C'est ça l'affaire.
Ça, puis là, on est comme dans un contexte positif. Fait que c'est très difficile dans ce contexte, dans cette façon-là, de dire ah non, mais ce qui est fait est mal parce que ça porte un message positif. Fait que là, c'est ça que les gens mélangent entre l'usage de moyens malicieux pour propager un message positif. C'est pas bien dans tous les cas, puisque de toute façon, c'est l'usage de moyens malicieux, pas le message qui est dénoncé. Et le moyen, dans ce cas-ci, est utilisé de façon pour une cause qui, je crois, est assez humanitaire en soi. Puis tout ce
qui fait du sens. Puis quand tu lis les histoires, tu sais, j'ai retracé jusqu'au premier tweet de tous les hashtags, de toute l'histoire et tout. Puis tu sais, t'as une centaine de personnes qui participent, qui font des vrais tweets et tout. Tu sais, il y en a certains que ça fait 11 ans qu'ils attendent leur dossier pour immigrer. Tu sais, ça n'a aucun sens. Il y a vraiment une vraie cause en arrière. Mais il y a un certain moment, un certain user sur Twitter se fait demander « Est-ce que tu peux nous aider à faire mousser ce tag-là? » Et une heure plus tard, il tag je ne sais pas combien de personnes et la majorité du hashtag qui était à 2-3 likes, en moins de quelques minutes, passe à une centaine de likes. Les impressions sont à 200 000 en moins d'une heure versus ce qui était à quoi? Une centaine l'heure d'avant. Tu sais, il y a des choses qu'il faut quand même comprendre. Puis le pire dans ça, c'est que quand tu fais l'analyse de tous les comptes Twitter qui sont les principaux, ceux qui font le plus de bruit, c'est que la plupart de ces comptes-là sont très vieux. Mais avant la date de la loi 9, tous les tweets ont été effacés. Il n'y a plus rien. C'est pas comme « Ah oui, on a créé des nouveaux tweets, des nouveaux Twitter, des nouveaux accounts pour manifester là-dedans, parce que c'est ça l'approche de la contestation. » C'est « Ah, ils se sont fait demander de participer, donc après le 7 février, lors de l'annonce que la loi a été arrêtée, ils ont créé les comptes pour manifester. » Le problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de comptes qui existaient avant, qui sont utilisés pour mousser ça, puis qu'il n'y a aucun contenu avant le 7 février, voire même le 14, où ce que les principaux hashtags ont été utilisés. Ça, c'est deux des preuves sur des cinquantaines qu'on a. Mais tu sais, c'est très drôle de voir que certains journalistes ont embarqué contre ça pour dire « Hey, aucun problème, tout est beau, blablabla, on a parlé à la personne. » Tu sais, si tu te fais dire, si tu es un compte qui amplifie le tout, tu te fais appeler pour dire « Hey, peux-tu nous prouver que t'es bien un humain? » Hey, c'est clair. Oui, effectivement, je te parle. je suis un humain. Allô, tu sais, comme quelle preuve bidon. C'est n'importe quoi.
Mais encore une fois, on confond l'usage de moyens toxiques versus la qualité du message. Puis dans ce cas-ci, moi, un moyen toxique demeure toxique même si le message, il est vertueux. Puis ça, c'est troublant. Puis les gens, c'est justement ce que tu penses, les journalistes sont pas dérangés. On a un épisode 89 qui va être diffusé probablement sous peu, qui n'est pas tout à fait dans le même ordre de diffusion, où justement, on parle abondamment que l'Internet est faux, qu'il y a beaucoup d'éléments sur Internet qui sont que de la poudre qu'on nous lance aux yeux constamment. Et puis là, c'est un très bel exemple de cette façon très malicieuse de weaponiser, d'armer un sujet. Puis là, le problème, c'est encore pire parce qu'on n'est pas capable de dire le sujet est mal utilisé. Parce que comme il est vertueux, on se fait taxer de ne pas être en accord avec quand on est d'accord avec le message, mais pas, on n'est pas en accord avec le moyen de le diffuser. Donc, c'est assez...
Ouais. Non, effectivement, puis tu as raison, la grosse différence, c'est que présentement, c'est utilisé pour une cause qui est bonne. Fait que quand on va tomber dans une cause qui est mauvaise, l'analyse va être encore plus compliquée à faire. Là. Fait que ça, c'est assez terrible. Puis ce matin, on faisait d'autres analyses. Puis un des comptes principaux qui pousse les nouvelles a commencé à supprimer tous ses followers qui étaient considérés bidons. Hey, faut-tu pas être... en tout cas, c'est louche.
Ouais, c'est pas... ça donne pas une belle image de l'Internet, puis donc...
Il aide pas la cause en faisant ça, c'est juste ça qui est dommage.
À terme, non, parce que ça crée un doute raisonnable dans la tête de plusieurs personnes. Puis bon, on va glisser à la nouvelle suivante, qui est justement des comptes automatisés qui sont utilisés dans ce cas-ci pour les élections fédérales.
Bien, c'est dans le mouvement, c'est à suite avec le qu'est-ce que Patrick a travaillé avec les journalistes. Il y en a qui sont venus cogner à ma porte et demander qu'est-ce que j'en pensais. Bien, j'ai dit, c'est soit exactement, c'est légitime de la façon que c'est utilisé pour être capable, donc, effectivement, d'aller mousser un message, mais ils le font négativement avec de l'amplification puis avec des moyens automatisés. Mais l'autre aspect aussi, il dit, ça peut être aussi un élément d'essai. Autrement dit, ce qu'on appelle en anglais un dry run pour, en vue des élections de 2019. Je vois très bien le scénario, ce que ça, l'utilisation d'un sujet chaud. Ça aurait pu être l'ancienne procureure générale du Canada, quoi qu'il y ait eu beaucoup de bruit cette semaine là-dessus. Mais là, c'était vraiment, il y a vraiment un sujet polarisé politique, juste au Québec, dans ce cas-ci, mais qui ça pourrait être utilisé pour mesurer qu'est-ce qui est la réaction du gouvernement et comment est-ce que ça va être géré comme crise. On parle évidemment sur les médias sociaux, non pas à l'Assemblée nationale. Donc, c'est dans ces deux approches-là que, veut pas, qu'est-ce qu'on a devant nous, c'est, encore une fois, l'aspect des médias sociaux qui va être devant nous et pour, encore une fois, jusqu'au mois d'octobre 2019. Il y a en Europe aussi, Damien, corrige-moi si je suis dans le champ, mais vous avez aussi des élections qui approchent à grands pas et qui, les autorités européennes sont aussi sur le qui-vive pour être capables de minimiser les ingérences. On l'a vu en Allemagne il n'y a pas longtemps. Il y en a d'autres aussi. Donc, au Canada, pour nous, c'est au mois d'octobre 2019 pour être en mesure de garder le processus électoral démocratique le plus intact possible, dire sans pour dire qu'il va être influencé par des mauvaises langues, comme on dit dans le bon français. Mais il reste que dans l'exercice qu'on a fait, qui est arrivé donc vendredi aujourd'hui, pour les 18 000 dossiers qui sont en jeu de la loi 9, c'est effectivement, encore une fois, une question de crédibilité sur, qui revendique, qu'est-ce qui se passe de pas correct. On faisait un petit calcul rapide, là, puis moi, je suis juste surpris du ratio. Et pourquoi juste encore une fois, un petit ratio de tous les 18 000, c'est eux qui font le plus de bruit. Alors qu'il y en a d'autres parmi ce groupe-là qu'on n'entend pas parler, mais pourtant qui ont tout à fait les mêmes revendications, les mêmes légitimités de dire qu'ils ne veulent pas que le dossier soit zéroté, comme on dit, qu'ils recommencent la démarche. Cela m'éclipse un petit peu, mais il reste toujours bien qu'il faut vraiment que ceux et celles, et je suis content que les journalistes ont rejoint Patrick pour qu'ils puissent démarrer le dossier, parce qu'autrement dit, s'ils avaient rejoint les autres personnes qui commencent à s'opposer au message qu'on essaye de dire, autrement dit, de ne pas faire confiance aveuglément à ce qui est présenté, mais il faut faire le travail de recherche et prouver que ceux et celles qui sont en arrière des revendications sont bel et bien des vraies personnes et non pas juste des automatistes et qui, à ce moment-là, rendent pas justice à la cause. Beau travail, Patrick.
Merci, mais en même temps, tu sais, ce que je trouve dommage dans tout ça, c'est que c'est une vraie cause avec un vrai impact humain en arrière. Et que la plupart du monde, avec le Twitch, je suis pas un robot, n'ont pas compris que le message était que l'utilisation était mauvaise et non pas qu'il n'y a pas tout le monde est des robots, puis vous êtes faux, puis vous êtes bidon. C'est pas ça le point.
Mais je pense qu'ils l'ont catché comme ça et ils l'ont pris vraiment à cœur en termes qu'ils ne se sentaient pas compris. Donc, c'est très émotif qu'est-ce que
oui, effectivement.
Ils ont détecté et ils ont simplement perdu la raison, puis là, ils ont parti sur le chire, là, comme on dit. Mais. J'ai hâte de voir cette semaine. Et parallèle à ça, Patrick, ce matin, je faisais des téléphones. Et à Ottawa, il n'y a pas grand monde qui s'en préoccupe. C'est ça qui était. On en a parlé vendredi. Et on se disait que peut-être les autorités fédérales, encore là, avec l'équipe qui a été mise sur pied annoncée surtout à la fin de janvier sur la protection des élections. Personne, présentement, ont reçu de coup de téléphone de Québec, du gouvernement du Québec, pour être capable de les assister à trouver le vrai du faux dans cette affaire. Autrement dit, ils ne voient pas de crise et on me disait que ça va être géré juste à Québec pour l'instant.
Québec a décidé de ne pas commenter, ce qui est dommage.
Voilà. Fait que ça, on va-tu encore dans le sens que ça va être un incident qui va être clos, que personne ne va jaser, puis ils vont espérer que ça va s'évaporer au fur et à mesure que la lumière va se faire?
À suivre.
Jean.
De toute façon, ça demeure toujours dans le sujet que l'Internet est faux. On va voir. On vous invite aussi à écouter l'épisode 89 qui va suivre plus tard que l'épisode 91. On aime ça être un peu dans le désordre. On va glisser complètement dans une autre chose. On va faire un retour sur le Dark Overlord qui, a un certain temps, déjà menacé de diffuser un certain nombre d'informations et a commencé effectivement à diffuser ses dites informations, Damien.
Ouais, Dark Overlord, ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de gens en ont parlé l'année dernière et il y a un an et demi après qu'ils aient visité les petits secrets, par exemple, vidéo de Netflix ou d'autres entités plus ou moins commerciales, en tout cas plus ou moins importantes. Et depuis maintenant le mois de novembre, The Dark Overlord, pour rappel, ce sont des maîtres chanteurs qui, après avoir volé des informations, demandent à être payés pour ne pas diffuser. Et là, ces dernières semaines, ils ont décidé qu'ils allaient faire chanter des cabinets d'avocats ainsi qu'un assureur américain, après leur avoir volé à première vue des dizaines de milliers d'informations, et ils ont essayé de faire une espèce de teasing mercantile complètement bidon, soyons très clairs. Ils ont annoncé avoir des milliers de données correspondant au septembre, et donc ils ont commencé à créer des espèces de petits conteneurs, 5 conteneurs exactement, et ils annoncent que si jamais les sociétés ne payent pas, ils diffuseront ces conteneurs, en tout cas les mots de passe permettant de déchiffrer leur contenu. Et donc, ils sont déjà à l'ouverture du troisième conteneur. Alors, je vais être très honnête avec vous, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur, en tout cas pas grand-chose d'information qu'on ait déjà apprise il y a fort longtemps, que ce soit par la justice, que ce soit par les enquêtes journalistiques. C'est très intéressant, c'est qu'ils ont tenté de jouer un petit peu sur l'ambiance complotiste, hein, mon Dieu, le 11 septembre, c'est peut-être faux, le 11 septembre, on nous a menti, etc., etc. Moi, ce qui m'embête le plus dans tout ça, c'est qu'ils ont quand même réussi à infiltrer des cabinets d'avocats et à première vue d'importantes entreprises que personne en a parlé. Alors, est-ce que c'est parce que derrière, on a affaire à des pirates maîtres chanteurs qui essayent à tout prix de faire un petit peu du chantage informatique avec des informations qui joue un peu trop sur le sensationnalisme? Ça montre surtout, si on fait abstraction de ce groupe-là, c'est qu'il y a de plus en plus de chantage sur les internets et de plus en plus de, on va dire, spécialistes de ce genre de choses qui vous veulent les données quand ils en ont l'occasion. Et puis après, ils viennent quasiment sonner à votre porte en disant « Alors maintenant, vous payez ou je diffuse ?»
C'est une autre façon de monétiser les informations dont ils disposent. Enfin, tous les moyens comme les ransomware sont un peu sur le même modèle. On est dans un modèle de chantage. C'est un chantage où on dispose d'informations. L'autre, c'est un dispose où on te bloque ton information. D'accord.
Mais ouais, je suis d'accord. Mais ce qui me gêne le plus, le ransomware, après tout, si monsieur et madame Mifu, ils cliquent sur le programme qui leur fout en l'air leur machine et qui a un super compte à rebours à l'écran, c'est leur problème. Le problème, c'est que de l'autre côté, quand on prend des gens comme The Dark Overlord ou les autres escrocs, ils mettent en pâture la vie de gens qui n'ont rien demandé. qu'ils prennent en otage l'entreprise en face qui n'a pas sécurisé ou qui croyait la maîtresse du monde en cybersécurité, c'est leur problème. Le problème, c'est que des gens comme The Dark Overlord, ils ont fait énormément de sociétés comme cette clinique de Londres qui fait de la chirurgie esthétique. Les gars ont quand même été diffusés des photos de dames nues avant et après opération. Je suis désolé, pour gagner 2 balles, mais qu'ils aillent se faire foutre, sans déconner. Je trouve ça honteux.
Oui, mais ce sont, c'est le fait que ces compagnies-là possèdent tellement d'informations sur nous, la protègent mal, et ensuite les gens les gens s'en foutent. C'est comme une apathie généralisée sur ce qu'on fait, puis j'en reviens encore. Là, c'est Steve qui disait ça régulièrement, qu'on devrait tenir responsables les gestionnaires criminellement. Puis si ça se faisait comme Sorbonne Oxley, la donne changerait de façon radicale. Je pense que là, on niaiserait plus. Ah non, je ne patche pas le système, ça ne tente pas. Mais là, ça ne tente pas. Tu arrives au bureau et tu le patches là parce que sinon, tu n'as plus de job. Ça va probablement devenir quelque chose de plus courant à ce moment-là. Et on prend le risque que les utilisateurs n'aient plus accès de façon momentanée. On s'en balance parce que moi, je ne veux pas aller en prison. Fait que changer cette relation-là va changer le rapport de force et l'importance dans lequel on va ça, pour protéger les choses de tout le monde.
Alors pour finir sur The Dark Overlord, pardon Steve, je suis à toi tout de suite. Pour finir avec The Dark Overlord, donc là ils annoncent dans quelques semaines l'ouverture du dossier 4. Alors il contiendrait plus de 10 000 fichiers et ils ont une révélation, paraît-il, le contenu risque de faire trembler le monde. En attendant, ça fait trembler personne. Hein. De nouveau, on a un petit claquage de fesses et puis tout le monde repart. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'à première vue, le contenu qu'ils ont m'a l'air d'être quand même très sérieux. Tous leurs comptes Twitter ont été fermés. Tous les espaces qui ont été utilisés ont été fermés. Donc, ça veut dire qu'ils ont, à mon avis, mis la main sur quelque chose. Maintenant, hein, si les amateurs de claquage de fesses veulent venir, n'hésitez pas.
Ben voyons. Étant capable de ce genre de modèle-là, tout ça, mais là, c'est Steve qui voulait rajouter sur le sujet, là, mais il est un peu mort de rire, donc on va laisser prendre sa contenance avant de pouvoir intervenir.
Je suis contenu. Non, je voulais juste faire relation, Nicolas, avec ce que tu disais en entrée tantôt d'entrevue, là, où ce que la façon que l'imputabilité doit être présente. Je veux dire, quelqu'un qui a, si on parlait de l'histoire de OACI, la personne a encore son emploi, malgré qu'il n'a pas fait sa job, tant que cette philosophie de travail, cette culture, la protection de l'incompétence demeure en place, ça va, les vulnérabilités ne vont que continuer, se poursuivre et s'amplifier parce que cette incompétence-là n'est pas adressée correctement. J'ai toujours eu comme feedback de certains gestionnaires et de patrons, lorsqu'ils demandaient mon avis, je dis, ah, il a fait ça, mais remercie-le, tiens-le pas ici plus longtemps. Et il me dit, ben, mais tu sais, c'est un bon gars, il a une famille, etc. Ouais, mais sinon, c'est quoi? Si tu vas l'éduquer? Oui, mais il faudrait que tu l'éduques, justement. Ben, j'ai déjà entendu parler, messieurs, d'un programme où on dit 2% du revenu annuel pour que tu sois investi en formation au sein des entreprises pour que les employés soient formés dans les compétents dans le champ d'activité. Vince?
Hey, les gars, ça fait des années. Ça s'appelle politique de sécurité. Permettez-moi, tabarnak. On indique dans politique de sécurité, quand on faillit, calice, ça peut mener à un congédiement.
Là, on va. Tu as vu ça, toi? Il n'existe pas ça.
Hey. Puis, Nicolas peut le dire parce qu'il en a fait en maudit des 15-40. On se comprend, Nicolas.
Oui.
Politique de sécurité, on a lu ça partout. Il y a des modèles qui étaient sur Wikipédia. Tout le monde faisait un copier-coller. Les gestionnaires, la haute direction signaient ça, puis on disait, bon, OK, on a une base commune, là, on va faire des activités pour que ça soit bien appliqué. Puis c'est drôle, 10, 12, 13, 15 ans plus tard, on a encore les mêmes politiques, ce qui est bien. Ah, je l'aime bien cette image-là, Damien. Puis ce qui se passe, c'est que c'est super actualisé encore, ça a 15 ans, on les a, il y a des sanctions qui sont là. Steve, je rejoins ton point. On maintient, on reste inerte face à l'incompétence. On n'agit pas pour toutes sortes de excuses, raisons. Ah, j'ai fini, vas-y.
Non, je ne voulais pas te couper, Vin, c'est très à propos, qu'est-ce que tu apportes? Ce que je voulais juste te donner, c'est que c'est un manque de couilles de la part des gestionnaires et des dirigeants d'entreprise qui ne prennent pas leurs responsabilités au sérieux et qui laissent aller ça. Et tout ça, encore une fois, je le vois souvent dans un contexte de Je ne veux pas faire passer pour le mauvais gars ou la mauvaise fille. Désolé, tu es payé de gros salaire, tu as la responsabilité, tu as signé davantage de documentation pour dire que tu es responsable, tu es imputable même. Donc, c'est ça du leadership, monsieur Dan. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités, il faut prendre des décisions, aussi impopulaires qu'elles se doivent, pour être en mesure de garantir la continuité des opérations et surtout l'intégrité et la confidentialité. Il me semble que c'est trois mots-clés qu'on doit se servir en sécurité. J'ai vu en quelque part, il me semble.
Me semble. Fait que glissons à des nouvelles en crypto-monnaie, puisqu'on a déjà abordé ça un peu avec les rançons logicielles dans ce cas-ci. Il y en a un décès d'un propriétaire amené à la perte de 250 millions de dollars à cause de la crypto-monnaie, mais pas la crypto-monnaie elle-même. Le problème, le fait que le mot de passe du cold wallet n'était dans la tête que du propriétaire.
Ouais, écoutez, on va reculer d'à peu près 3-4 semaines. J'ai trois petites nouvelles. En fait, j'ai la même nouvelle sur trois petits reportages fort intéressants. Une petite compagnie canadienne qui minait de la monnaie virtuelle et qui, pour le bénéfice de ses clients, utilisait justement un dispositif externe chiffré pour maintenir, en fait, protéger les différents comptes. On parle ici d'une perte de 250 millions. Étrangement, le jeune homme, parce qu'il est plus jeune que moi, a fait un petit voyage en Inde et est mort dans des circonstances mystérieuses. Cette personne-là, comme Nicolas l'a dit, était la seule qui possédait le mot de passe pour, justement, le disque dur chiffré. C'est une mauvaise nouvelle pour certains investisseurs. Moi, ma question, c'est, OK, fine, la banque virtuelle qui se promène sur un petit dispositif de 2 pouces et demi par 4 pouces, il n'y a pas de mot de passe, fine, mais c'est parce que l'argent est réel là-dedans. Là. Je comprends que l'AMF s'intéresse, mais en fait, les autorités en matière de valeur s'intéressent à ça parce qu'il ne semble pas y avoir jurisprudence. Mais cet argent-là, il se passe quoi avec ça? Moi, ça, c'est ma question. Là. Mais dans toute l'histoire, tout ce que j'ai envie de dire, c'est cold wallet, mot de passe, décès, 250 millions qui disparaissent dans la nature. Moi, ça ne me rentre pas dans la tête. Il y a 250 millions qui existent là.
Moi, j'attends juste à savoir sont où les funérailles de la personne. Dites-moi ça, puis on va résoudre le cas.
Sais-tu quoi? Excellente intervention, Patrick. Depuis, là, attendez un petit peu, 12 février, il y a comme plus de son, plus d'image sur cette histoire-là. Moi, j'ai pas relu d'autre chose.
Ben, les seules choses qui est apparue un petit peu après, c'est le gouvernement qui essaye de les sanctionner. Je pense qu'il y a un article là-dessus.
Non, écoute, c'est possible.
Rien de spécial.
C'est possible, mais tout ça baigne dans le mystère. Alors, écoutez, je vais en faire un petit feuilleton à suivre. Oui, vas-y, Steve.
Flash news d'hier. Search into missing cryptocurrency turns up empty cold wallets. Vous avez ça dans le chat box, messieurs, dames. The high-profile search for 180 million is missing in cryptocurrency owed to the users of the beleaguered Quadriga CX trading platform has turned up a small amount of digital assets, but the intrigue surrounding the case deepened Friday as investigators pointed to a series of transactions they cannot explain.
Ils ne savent pas son où, les transactions, là.
Non, d'un coup, là, pouf! Fait que ça, on pourrait mettre peut-être le lien, ça vient de sortir. Les...
Il est ressuscité dans son blockchain, c'est incroyable.
Le blockchain, tout et n'importe quoi, il permet aux gens de se ressusciter.
Le blockchain, ça fait de la sécurité, ça aide les maladies, et maintenant, ça fait des transferts invisibles.
Et ça fait retirer l'argent.
Mm-hmm. Excellent. Écoutez, on va faire un suivi là-dessus. Il n'y a pas de problème. Deuxième petite nouvelle. Souvenez-vous, l'année passée, il y a à peu près un an, je ne dirais pas jour pour jour, là, d'ici une couple de jours, ça va faire un an, une petite entreprise québécoise qui a de l'équipement pour miner de la crypto-monnaie s'est faite justement défoncer. Ils ont aspergé de l'eau de Javel sur un des propriétaires, etc. Ils ont volé pour 800 000 $ d'équipement. Ça avait fait la manchette. Ils ont retrouvé le camion, ils ont retrouvé deux personnes. etc., etc. Et petite nouvelle, en fait, malheureusement pour eux autres, cette petite nouvelle-là n'aurait peut-être jamais dû sortir dans le journal il y a à peu près un an, parce que l'ANF a réussi à infiltrer cette compagnie-là, parce qu'ils se sont remis sur pied, ils ont continué à faire des opérations, et voilà que certaines opérations, en fait, la petite infiltration de l'ANF, fait état d'une dame qui prétendait vouloir investir, etc., etc. Et puis, il y a des sommes d'argent de certaines personnes, deux sommes, il y a un 300 000, il y a un 500 000, qui ne retrouvent pas la trace. Il y a de l'argent qui disparaît. Alors, présentement...
Y a-t-il un blockchain là-dedans aussi? Là?
Oui. Le blockchain, comment je dirais ça? C'est comme un trou noir aussi d'informations. Hein? La lumière n'en sort pas, l'argent disparaît. Alors, présentement, l'AMF est sous enquête là, auprès de cette petite compagnie-là qui semblait avoir réussi à tirer son épingle du jeu à Québec. Mais il semble avoir été victime de l'appât du gain. Alors, une autre petite nouvelle à suivre. Cette nouvelle-là date du 21 février dernier, c'est à peu près 2-3 semaines. Alors, je vais faire un suivi là-dessus.
Ouais, on revient toujours au fait que c'est de l'appât du gain. Autant ça, là, ces argents qui disparaissent de façon par magie me fascinent un peu. Puis, en ce sens, le Bitcoin ou les crypto-monnaies dans son ensemble, ces deux nouvelles-là le soulignent bien, sont des véhicules de placement qui sont, disons, très dangereux.
Volatile, oui.
Dangereux, donc, puis ils sont non réglementés, donc on ne sait pas à qui on a affaire au bout du fil ou au bout de la crypto-monnaie ou du blockchain dans ce cas-ci. Continuons avec la nouvelle que un contrôleur, que tu dis, a découvert que le fisc a de l'argent qui glisse entre tes doigts. Vincent?
Oh, attends un petit peu, c'est mon autre nouvelle, ça. Je me suis... Oups, je ne l'ai pas imprimé. En fait,
On peut ne pas la parler du tout.
Non, en fait, c'est une petite nouvelle dont je me souviens. C'est une compagnie, écoutez, qui a embauché, si je ne me trompe pas, Deloitte. Et puis, Deloitte...
EY.
En faisant EY, excusez, pardon. Ah, Deloitte est dans le mauvais droit ces temps-ci. Je ne sais pas si vous avez lu la nouvelle hier. Là. Deloitte fait l'objet d'une poursuite de 95 millions contre une entreprise qui fait des prêts auto usagés où le CFO a falsifié les données et EY aurait participé ici des états financiers. Oups. Pas EY, pardon, Deloitte. Effectivement, EY aurait décelé en fait de l'argent qui aurait disparu. Attendez un petit peu. Je pense que je l'ai, ma nouvelle. Oui, écoutez. Quadriga GX, en fait, c'est la suite de ma nouvelle sur le monsieur qui est mystérieusement mort en Inde. Excusez-moi. C'est que le contrôleur a nommé EY comme vérificateur et EY aurait décelé effectivement des transactions mystérieuses. Au niveau du véhicule, on va appeler du véhicule blockchain dans ce cas-ci, là, des transactions là, qui totalisent à peu près 902 000 en crypto-monnaie qui auraient mystérieusement été transigées. Oui, effectivement, à pas du gain, Patrick. Merci. Alors, EY, présentement, est le vérificateur qui est dans justement pour vérifier les états financiers et puis les opérations de minage de crypto-monnaie de Quadriga GX. Alors, voilà.
Glissons vers le festival du film qui a, elle aussi, subi depuis déjà un temps des faits néfastes. Steve?
L'ONF! l'organisme de National Film Board of Canada, donc l'Office national du film, encore une fois, j'aurais aimé ça d'en parler en parallèle avec le OACI parce que ça a un autre organisme parapublic dans ce cas ici qui s'est avéré qu'ils n'ont pas, qui ont été encore une fois victimes d'une incursion. Dans ce cas ici, c'est pas mentionné, mais je crois lire entre les lignes que ça serait certainement un rançon logiciel qui a rendu à ce moment-là les réseaux informatiques à l'intérieur non accessibles.
Ceci dit, ça donne quoi encore comme, comme situation? Mais ça donne une fois qu'un organisme qui pourtant dépend de plus en plus de l'informatique, veux dire, je ne crois plus que l'ONF gère des bobines de film, et bien du matériel numérisé. Donc, ça les paralyse quand même assez au cœur de leurs opérations. C'est encore une fois un manque de rigueur. Quand que je vois des situations comme ça, donc qui n'ont plus la possibilité de que les gens n'ont plus la possibilité de travailler parce qu'il y a une paralysie informatique, parce que ça provient d'un environnement mal surveillé, dans le sens qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas été capables d'anticiper la menace, et surtout ils n'ont pas été en mesure de d'être capables de, si c'est par courrier électronique, le véhicule, l'acheminement du code malicieux, ben à ce moment-là, il faut peut-être qu'ils ravisent sur quel moyen de détection et surtout de prévention qu'ils doivent utiliser. Donc, ça, c'est encore une fois pour illustrer que les réseaux informatiques, peu importe que ce soit domestique ou commercial, petite ou grande entreprise, tous subissent éventuellement une brèche ou une panne. Mais l'important, c'est d'être capable d'expliquer pourquoi. Puis encore une fois, on n'a aucune explication. Peut-être, ça nous appartient. Mais il reste que, je sais pas, là, ça fait combien de temps qu'on travaille avec l'informatique déjà? L'intégration des réseaux informatiques s'est faite dans le milieu des années 90. On approche le 30 ans, là, tu sais. On a tout dépassé? Je crois que oui. T'sais, ça donne une idée à quel point qu'on est rendu loin dans l'utilisation. Puis on vient encore une fois parler des mêmes situations, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'absorption et surtout de changement. Fait que faut-il encore entendre 30 ans avant qu'on mette des vrais changements en place pour être capable d'avoir un environnement où on n'a pas de casse-tête, puis qu'on va pouvoir à ce moment-là se coucher tous et chacun ici à cette table à chaque soir? Vince, je t'en prie, tu peux continuer à commenter.
Politique de sécurité. Cadre de gestion, framework en sécurité, écoutez, nommez ça comme vous voulez, mais c'est un bon point, Steve, de ramener le temps passé à utiliser, exploiter ces technologies-là. On dirait que ça amplifie le problème. Ben, en fait, c'est un facteur aggravant. Ça donne l'impression d'être un facteur aggravant, étant donné que ça fait longtemps qu'on utilise ces principes-là. On dirait qu'on a plus mis de l'avant la performance, l'accessibilité, une facilité d'utilisation versus des principes sécuritaires. C'est un autre bel exemple, justement, où on mise plus sur la performance, l'accessibilité. En fait, je vais le dire comme ça, je vais l'utiliser comme expression générique, service à clientèle.
Pourquoi?
Service client, on veut faciliter la vie au client, on veut faciliter la vie, peu importe le type d'entreprise qu'on est, on dirait qu'on veut faciliter plus la vie au client au détriment, justement, d'une complexité en termes de sécurité. C'est complexe, la sécurité. C'est pas complexe. Mais de mettre la sécurité en place, de mettre une façade sécuritaire, une clôture, on dirait que le client, il est réticent à ça. C'est pénible. C'est encore un autre NIP, un autre ci, un autre ça. Mais bon.
Et pourquoi, d'abord, Vince, ils ont été capables de le faire avec les véhicules automobiles, l'industrie aéronautique? Je veux dire, ça complexifie un peu nos moyens de transport avec le temps, définitivement. Imagine-toi si on prend un véhicule des années 50, pas de ceinture de sécurité. Le véhicule est capable de... OK, il va pas aussi vite, parfait. Il n'y a pas des hautes performances, c'est vrai. Mais il reste toujours bien qu'on est capable de se déplacer du point A au point B. Fantastique. Maintenant, si on prend le terme dans l'aviation, si on serait... On prendrait encore les mêmes vieilles avions qu'on se déplacerait aujourd'hui, on serait capable de faire le même job? Absolument, on irait du point A au point B. Donc, on a amélioré, on a certainement eu des meilleures performances, mais maintenant, on a aussi des moyens de sécurité pour être capable de, si jamais il arrive le pire, on est capable de survivre. Donc, on est encore une fois dans un monde physique, comme tu disais tantôt, Patrick, c'est des choses qu'on peut toucher, c'est facile, on se cogne la tête, ouch, on est capable de réagir. Et quand on perd 2 bits, on s'en rend pas compte, il y a 2 bits de perdu, donc on le voit pas. Mais la même chose, je vois dans le cyberespace, il y aurait moyen de mettre oui, je te rejoins dans l'idée. Ça s'appelle des contraintes, c'est certain. Les gens sont en maudit quand on leur impose des contraintes. Je suis d'accord avec toi. Cependant, les gens veulent pas s'éduquer. Les gens veulent pas apprendre comment fonctionne. Les gens ont appris à conduire un véhicule automobile. Ils n'ont pas appris à conduire un avion. Ça, c'est pas vrai. Ils ont appris à prendre l'avion, à passer par la barrière A, B et C pour se rendre après ça à l'avion. Mais il reste aujourd'hui que les cours de conduite, là, je ne me ferai pas des ennemis peut-être en disant ça, mais il y a une certaine tranche d'âge que Moses mériterait de se faire un autre cours de conduite tellement qu'ils ne l'ont pas eu au début, que ça paraît avec le temps. 40 ans, 50 ans plus tard, on voit qu'ils n'ont pas appris la base comme le reste de tous autres, qu'on a été obligé de le faire. Avec l'informatique, je crois qu'il y aurait un besoin, non pas de légiférer, une obligation. Mais tu sais, c'est drôle, encore, je vais te ramener ça sur les armes à feu. Pour avoir une arme à feu, il n'y a rien de plus simple que de se servir d'une arme à feu. Hein? Tu le charges, à un moment donné, tu es capable de figurer ce que va apparaître, tu es capable de figurer aussi le cran de sûreté, tu es capable de figurer comment l'activer, autrement dit, tirer. Mais si tu n'as pas de permis, tu ne le feras pas sécuritairement. Fait qu'on devrait-tu à ce moment-là imposer d'avoir un permis pour l'utilisation d'un système informatique à la maison? Parce que là, à ce moment-là, la personne devrait être, à ce moment-là, démontrer qu'elle a les capacités pour être capable de comprendre comment fonctionne l'ordinateur, comment l'éteindre, l'allumer, comment la faire une cyberhygiène. Et après ça, avec ton permis, ben, parfait, alors tu peux faire du travail sérieux. Ça serait-tu une solution ou bien une folie?
Sur ça, je trouve ça très intéressant. Le fait que tu as nommé l'aviation et tu as nommé l'automobile, dans les deux cas, il y a eu tellement de morts qui ont précédé le fait qu'il y a eu une réglementation et qu'ils sont pris en main. Parce que beaucoup d'avions qui ont tombé avant qu'ils fassent quelque chose de bien et qu'on est dans un contexte d'aviation comme on est maintenant, d'une extrême sécurité. Il y a eu beaucoup de morts avant. L'automobile, la même chose. C'est même connu. Les compagnies automobiles ont laissé sur la route des autos d'une dangerosité extrême qui explosait, justement, et que, dans le fond, je pense que c'est, je m'en rappelle plus laquelle, mais qu'il y avait les tanks à gaz étaient à l'extérieur du frame, et que tu avais une collision. Pardon?
La bonne vieille Pinto.
C'est ça. Tu avais une collision, l'auto, 9 fois sur 10 explosait, fait que c'est pas un super plan. Fait que oui, mais est-ce qu'on faut attendre qu'on ait des morts en cyber pour faire ce genre de choses-là?
Les mortalités en cyber que je te réfère, Nicolas, bien, c'est la quantité d'informations que l'on perd. Mais parce que c'est intangible, il n'y a pas de conséquences. On ne le voit pas. T'sais, demain matin, il n'y a plus de données.
Mais c'est ce qu'il dit. Il va falloir attendre qu'il y ait des morts. Il va falloir qu'il y ait une attaque sur une centrale nucléaire ou des trucs médicaux. Oui, je sais qu'il y en a, mais pas à grande échelle.
Mais non, on n'a
pas les nouvelles à tous les jours. Tu ne vois pas un mort parce que tu as piraté un compte Facebook. Là,
non, ça va commencer par les implants.
Oui.
Ça va commencer par les implants.
Ouais, c'est une bonne direction.
Ça va être la claque d'en face ou le pied au cul qu'on va subir.
Ils vont te cacher pareil puis on n'entendra pas parler.
Ouais, mais tu as eu les nouvelles sur les pacemakers qui étaient à distance. Il n'y a pas eu de cas de quelqu'un qui se prenne d'une ville pour toutes les faire planter. Mais la journée que ça va arriver.
Le président Cheney qui l'a fait enlever son pacemaker avec RF.
Ouais. C'est assez tough comme chose parce qu'on n'a pas de moyens qui vont amener dans ce cas-ci. Mais de toute façon, dans tous les cas, c'est les législateurs. Toutefois, dans l'aviation, c'est le législateur qui a intervenu pour rehausser. Dans le cas de l'automobile, c'est les codes de sécurité qui ont forcé l'industrie automobile à se légiférer, se nettoyer elle-même. Donc, dans les deux cas, et les poursuites dans le cas automobile aussi, qui était un incitatif assez important à régler ça. Oui, Steve?
Pour faire suite à un parallèle à ce que tu viens d'apporter, il y a eu 2 hacks de véhicules automobiles qui étaient faits à distance il y a 4 ans, 5 ans. Qui a pris le lead pour être capable de dire à l'industrie d'automobile, « Hey, faut pas que ça arrive encore. »
C'est pas le DEFCON qui a pris le lead?
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça revient au même exemple. Il n'y a pas eu de cas en danger via ça parce que le risque, la probabilité que quelqu'un dise, « Hey, je vais aller tuer quelqu'un en char. » Est très faible.
Il y a eu un cas réel en Californie, qu'ils n'ont pas été capables d'expliquer comment ça se fait son char. Il a soudainement accéléré, puis que le gars, il a perdu le contrôle du véhicule. C'était un bonhomme qui était en position d'influence, puis qui, c'est ça.
Mm-hmm. C'est très troublant,
ça revient à ça encore.
Il va vraiment faire comme ça quelque chose. On va arrêter ce sujet-là, puis il faut qu'on aborde un peu la politique de sécurité. À ce moment-là, on va aborder que les Chinois se sont développés un playbook qui leur sert à faire du APT?
Ben oui, les capacités de ce pays-là ne font que s'améliorer, pour ne pas dire ne font que prendre de plus en plus d'expansion pour être capable de rendre service à la nation, n'est-ce pas? Donc, le gouvernement, ben, encore là, le gouvernement chinois, c'est se prémunir, je veux dire, ils ont le plan maître qui existe, qui s'appelle Made in China 2025, et ils l'ont ouvertement dit qu'ils vont prendre tous les moyens nécessaires pour être capables, à ce moment-là, d'aller chercher tous les avantages économiques et technologiques partout sur la planète pour être en mesure de faire d'avoir cet avantage-là partout, n'importe où sur la planète. Or, de dire qu'ils ont des moyens différents que des Américains, oui, c'est tout à fait à leurs honneurs. Je veux dire, c'est parfait. Ils ont été chercher qu'est-ce qu'ils ont de mieux à offrir, contrairement à ce que les Américains, eux, continuent de le faire. Mais on n'entend pas souvent parler, je ne sais pas si les gars, vous voyez ça aussi du même œil, où on a de plus en plus, on entend souvent les histoires des mauvaises organisations là, qui ne cessent d'arriver à leur fin, et c'est fantastique, là, mais il reste que un gouvernement, pour être capable de penser à l'expansion, pour pas dire à la prospérité économique de leur pays, mais même prospérité politique, je devrais dire, fait en sorte qu'ils vont davantage grandir. Donc, là-dessus, je vous réfère avec le gouvernement chinois, c'est Dell qui a mené cette enquête-là sur la caractérisation sur comment est-ce que APT-27, ou mettre en parallèle le Brand Union, qui est le nom de ce groupe-là, qui est un peu en référence à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'autre groupe, qui était donc Emissary Panda. C'est ce genre d'organisation-là qui vont s'activer à aller faire du vol d'informations, surtout des data centers, les investir, être capable de les prendre, prendre l'information à l'intérieur, rester persistant, d'où le terme APT, pour être capable justement d'aller encore une fois prendre le plus d'informations. Donc, si vous entendez ce que je dis, le gouvernement chinois et eux autres, ils n'en ont rien à cirer sur quels orteils ils vont peser. Ils vont juste aller à l'objectif. C'est toujours ça. Ça fait partie de la doctrine chinoise depuis Matsuo, de Sun Tzu. Peu importe le moyen qu'ils vont utiliser, ils utilisent tous les moyens à leur disposition pour être capables d'arriver à leur fin. Leur fin ultime, c'est de la domination complète en toute sphère, partout dans le monde. Parce que Made in China 2025 dit très bien qu'ils veulent que n'importe qui sur la planète vienne s'approvisionner chez eux. Et quand on veut dire s'approvisionner, ça veut dire en tout. C'est pas juste les cossins, les magasins de pièces. Ça veut dire l'agriculture, ça veut dire la matière première, ça veut dire tout produit fini. Mais présentement, si vous regardez les magasins, je pense que c'est pas mal ça. J'ai rebaptisé d'ailleurs Canadian Tire comme étant China Tire. Il n'y a pas grand-chose de canadien maintenant, le Canadian Tire. C'est juste pour donner justement, illustrer l'idée comme quoi qu'on a de moins en moins de souveraineté économique. Et si on persiste à laisser ça aller, ben c'est de même qu'on va se retrouver parce qu'on n'aura plus grand-chose de chez nous, comme on dit.
Effectivement. Puis ça va être notre dernière nouvelle pour aujourd'hui, puisque je pense qu'on devra se voir plus souvent, parce qu'à chaque fois qu'on fait un épisode où on ne se voit pas assez souvent, on a un nombre extraordinaire de choses à dire.
Ben là...
Ça paraît quand ces choses-là. Fait que je vous souhaite une excellente semaine en bonne sécurité, pour le peu de sécurité qui nous reste. Et messieurs, un petit mot de la fin.
Je suis pas un robot. À plus.
Politique de sécurité. Appliquez le don. Il y a une ligne. Il y a à peu près 30 mots. Facile à lire. Il y a une majuscule, il y a une virgule, il y a un point à la fin.
Personne ne sait où sa tablette, ta politique.
Et chinois.